Au travers des deux textes que Jean-Pierre vient de lire, voici les trois thèmes auxquels je vous propose de réfléchir aujourd'hui. Premier thème, Dieu exerce sa parole en toute liberté. Nous devons y être attentifs, car cette parole peut nous parvenir, et nous parvient, par des chemins de traverse, des chemins inattendus. Deuxième thème, cette liberté de la parole divine nous surprend. Il y a même une certaine sidération à constater à quel point elle s'échappe des canaux de diffusion préétablis et des systèmes hiérarchiques officiels. Du coup, elle nous oblige à ne pas nous contenter de l'ordre établi, de pensées toutes faites, de lieux communs. Elle nous contraint à nous faire une opinion par nous-mêmes, à exercer notre propre capacité de jugement. Cette liberté de la parole divine nous libère, donc à notre tour. Elle nous fait grandir à l'image de la parcelle de lumière divine que Dieu a mis en chacun d'entre nous par le moyen de sa grâce. La véritable action de la grâce de Dieu, outre de nous donner la foi et de nous placer en état de choisir le bien et de nous éloigner de l'obscurité infantile. Troisième thème, cette liberté de la parole divine nous dit aussi comment obéir à la grâce de Dieu. C'est un mode d'emploi. Cette liberté nous appelle à nous ouvrir à l'autre, à celui qui est étranger à notre groupe, ou à nous ouvrir à quelqu'un du groupe dont la voix ne portait pas jusqu'alors et qui est brusquement mise en lumière. C'est un cycle à trois temps. Au début, le Verbe. La parole nous est apportée par l'autre. Ensuite, la grâce de Dieu nous la fait comprendre. Et en fin de cycle, c'est encore vers l'autre, vers notre prochain, vers notre frère humain, que nous nous tournons dans les actions de solidarité et de charité. Vous le savez, nul n'est prophète en son pays. Et nous allons voir que les chefs désignés ne sont pas toujours ceux qui reçoivent la parole de Dieu. Dans les Nombres, 11 de 25 à 29, l'action se situe lors de la migration du peuple d'Israël entre le Sinaï et Kadesh. 600 000 personnes en transhumance. Une colonne phénoménale. Pose des problèmes de taille et de logistique. Alors, cette situation n'étant pas sans rappeler celle que nous vivons actuellement. Le ravitaillement vient à manquer et le peuple se plaint amèrement à Yahvé et à Moïse, regrettant l'abondance de la nourriture dont ils disposaient en Égypte. Ils ont déjà oublié que la liberté, c'est-à-dire pour eux le fait d'être délivrés du joug égyptien, la liberté se paye au comptant et au prix fort. Rappelez-vous la fable de La Fontaine, le chien et le loup. La contrepartie de l'embonpoint du chien est, je cite, « le collier dont je suis attaché ». Face aux incessantes récriminations du peuple, Moïse se plaint à son tour à Dieu de la charge écrasante de la conduite de tout un peuple dont il a lui seul la charge, 600 000 personnes. Dieu lui conseille alors de réunir 70 anciens chargés de fonctions, c'est-à-dire des notables, des élites, de les rassembler dans la grande tente de réunion. Alors, Dieu descendra parmi eux et partagera l'Esprit Saint afin que chacun puisse relayer la parole divine et soulager Moïse. Chacun des 70 devant à son tour annoncer le retour de l'abondance de manière prophétique. C'est à ce moment qu'intervient l'extrait qui vous a été lu et que je me propose de commenter. Moïse rapporte au peuple sa discussion avec Dieu. Il rassemble les 70 notables autour de la grande tente. Yahvé descend, prend l'esprit de Moïse et le partage entre les 70. Ça fonctionne. Aussitôt, ces derniers se mettent à prophétiser suivant le plan de Dieu. Puis, soudainement, ils cessent de prophétiser. Le texte n'apporte aucune justification à ce recul, aucune raison. Que peut-on interpréter ? Alors, en fait, plusieurs options s'offrent à nous. Première option, les notables ne sont pas faits pour relayer durablement la parole de Dieu. Ce sont les pierres du temple. Nous savons qu'il existe chez l'homme deux types d'énergie bien distinctes. La première sert pour convaincre et motiver. C'est une énergie de mise en mouvement, une énergie de dynamisme. Elle sert à conquérir. La deuxième sert à stabiliser, à administrer le groupe. Et ces deux énergies sont antagonistes. Rares sont les hommes chez qui on trouve les deux, en cohabitant harmonieusement. Faire jouer les notables à contre-emploi, dans un rôle de prophète, donc dans un rôle dynamique, alors qu'ils sont là pour administrer, ne peut pas durer très longtemps. Deuxième option, les notables sont à l'âge où la sagesse l'emporte sur la générosité. Ça se peut. Et sont réticents à partager le poids, il y en a 600 000 qui poussent derrière, le poids de ce terrible fardeau de la conduite de tout un peuple par un homme seul. Troisième option, il s'agit de leur part d'un réflexe d'orgueil, de caste, et ces hommes en vue, ayant plus à perdre qu'à gagner, surtout si la prédiction du retour à l'abondance ne se réalisait pas. Quatrième explication, à l'arrêt de la prophétisation des notables, eh bien nous l'avons tous expérimenté à titre individuel, l'Esprit Saint ne souffle pas de manière continue. Il s'arrête, il reprend. Mais ici, tous les notables cessent de prophétiser. Alors bien entendu, il y a un peu de toutes ces explications dans leur décision à garder le silence et à ne plus aider Moïse afin de calmer la multitude. Réflexe de caste, incapacité à sortir de leur statut par rigidité psychologique, égoïsme, calcul politique, raréfaction de l'Esprit Saint. Manifestement, les élites ne tiennent pas leur place. Alors me direz-vous, ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Mais là, l'affaire est grave. La désorganisation d'une cohorte de 600 000 personnes par la révolte interne d'une partie de ces individus peut très vite tourner à la catastrophe. Son délitement en sous-groupes moins puissants l'expose immédiatement à tous les prédateurs. C'est une question de survie. Et face à ce mutisme collectif, le mutisme des 70 qui s'arrête de prophétiser et qui n'aide pas Moïse, on peut raisonnablement s'interroger sur la volonté de Dieu. Et on peut s'interroger également sur l'action de l'Esprit Saint à l'égard du peuple d'Israël. Considérons la suite des événements. Face au mutisme des élites, voici que la parole de Dieu rejaillit par deux hommes restés au camp, donc hors du groupe, Eldad et Médad. Ils parlent, et c'est l'Esprit Saint lui-même qui s'est posé sur eux et qui les rend légitimes. À peine mis en œuvre, le souffle de Dieu déborde la petitesse des hommes. Sa parole est libre. Nul ne peut l'endiguer. Elle rebondit là où on ne l'attend pas. Elle se révèle à l'endroit qui n'était pas prévu. Elle se diffuse par des individus qui ne font pas partie du groupe. Alors bien sûr, le groupe des notables désignés se rebiffe et un des serviteurs de Moïse s'en fait l'écho. Au nom de qui, au nom de quoi ose-t-il parler? C'est immédiatement une réaction de jalousie. Et il est fait demande à Moïse de les empêcher de parler. Je cite le verset 28, « Moïse empêche-les ». Mais Moïse, toujours animé par l'Esprit, constate la rareté de l'Esprit de Dieu parmi son peuple et souhaite plutôt que chacun dans le camp le reçoive et se transforme à son tour en prophète. Il ne limite pas la parole de Dieu aux notables désignés. Il a tellement besoin d'aide. Moïse est l'éclaireur. Il constate la faillite des élites et il est capable de réinterpréter la consigne d'origine donnée par Dieu. De réinterpréter. Afin de respecter l'essence même de la parole divine et d'en assurer sa diffusion. Il s'agit avant tout de préserver sa colonne de migrants. Il est ainsi capable de dépasser la loi. Il est ainsi capable de dépasser la loi, tout comme le fera Jésus ultérieurement. Nous voyons ici dans ce texte des Nombres à quel point la parole de Dieu est libre, à quel point elle ne se laisse jamais enfermer. Elle rejaillit là où on ne l'attend pas, chez Eldad et Médad. Elle le fait au travers de personnes que nul n'a désignées. D'ailleurs, à ce propos, Martin Luther n'hésite pas à aller encore plus loin dans ses propos de table. Et dans le court extrait que je vais vous lire, la parole, il considère que la parole de Dieu peut carrément être mise dans la bouche de gens peu recommandables. Je cite Martin Luther. Le fait que Dieu accorde aussi sa parole par de méchants fripons et par des impies n'est pas une petite grâce. Dans une certaine mesure, il est même plus dangereux qu'il l'accorde par l'intermédiaire de saints personnages, alors qu'il la donne par des hommes qui ne le sont pas. En effet, les auditeurs dépourvus de jugeote se laissent prendre et s'attachent plus à la sainteté des hommes qu'à la parole de Dieu. Ce faisant, l'homme est plus honoré que Dieu et que sa parole. Ce danger n'existe pas quand Judas, Caïphe ou Hérode prêchent. Cela n'excuse cependant pas la mauvaise conduite de quelqu'un, même si Dieu peut utiliser la personne en question. Nous avons vu que la parole de Dieu prend toute liberté sur son lieu d'expression, sur son canal de transmission. Mais ce ne sont pas là ses moindres qualités. Elle nous rend surtout libres. Elle nous rend d'abord libres en nous forçant à relativiser les consignes de départ au cours de l'action. Voyez comme Moïse prend à revers l'enseignement d'origine. Il prend à revers le groupe des 70 notables pour retrouver l'essence de la parole divine et assurer sa diffusion. Elle nous rend plus libres encore, car la puissance de son message, révélée par l'Esprit Saint, permet à l'homme de s'affranchir partiellement de son carcan originel d'émotions et de souffrances. À moins de penser que Dieu aime faire des plaisanteries. Pourquoi pas? S'il a ôté l'esprit aux 70 notables, c'est avant tout par volonté de nous faire grandir. Il s'agit de forcer les individus à penser par eux-mêmes. La parole de Dieu en toute liberté échappe à ceux qui formulent la doctrine, à ceux qui élaborent la théologie, à ceux qui gouvernent. Dieu nous interpelle chacun, individuellement et directement, sans intermédiaire. Nous sommes dans la grâce de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Aidés de l'Esprit Saint, il nous oblige à utiliser notre propre jugement et par là, il nous rend libres. La bonne nouvelle, c'est que cette liberté nous permet de nous faire grandir à l'intérieur de chacun d'entre nous la parcelle de lumière divine. C'est le don le plus précieux que Dieu puisse nous faire. Il nous envoie l'Esprit Saint et en exerçant notre liberté, il nous fait grandir à son image. Bien sûr, la présence de l'Esprit n'est pas constante et notre devoir est d'en prendre soin au plus profond de chacun d'entre nous, chaque jour de notre vie. Connaissez-vous Madeleine Saint-Quin? Oui, bien sûr, vous la connaissez. Simplement, vous la connaissez sous son nom en Jésus. Il s'agit de sœur Emmanuelle, qui, à l'issue de toute une vie au service de sa congrégation, débute à 60 ans une nouvelle carrière au service de l'enfance malheureuse du cœur. Après 40 ans d'obéissance dans un rôle d'enseignante pour des jeunes filles riches et superficielles, elle peut enfin vivre la liberté de la parole divine. Le sens de sa vie, c'était les chiffonniers du Caire. Mais sa hiérarchie en avait décidé autrement. Heureusement, Dieu ne nous laisse pas seuls dans ce type d'épreuve et il a accordé une longévité et une vitalité tardive d'exception à cette femme. En 22 ans d'action, après sa retraite officielle, elle a fait scolariser 85% des enfants, fait diminuer considérablement la violence et aider les femmes à se libérer. Qu'aurait-elle pu accomplir si elle avait débuté son action plus tôt? Dieu nous montre que sa parole est libre. Malheureusement, il ne nous dit pas toujours clairement à quel moment la mettre en œuvre. Pour certains, c'est au terme d'un long travail de maturation que nous trouvons le courage de lui obéir. Pour d'autres, déjà forgés dans le combat de la résistance aux nazis, comme l'abbé Pierre, c'est tout de suite qu'il faut agir. Pour nous, qui allons peut-être connaître un flux migratoire sans précédent, comment devons-nous agir conformément à la lumière divine? Devons-nous le vivre comme une menace pour notre modèle social et culturel ou comme l'opportunité de mettre en œuvre l'enseignement de fraternité que nous avons reçu? La mise en marche de plus de 10 millions de personnes ne laissera pas les choses en place. À ce propos, convenons toutefois qu'il est plus facile de compatir individuellement et d'aider une misère ponctuelle que d'avoir à prendre des décisions collectives et structurelles. Que l'Esprit de Dieu éclaire les dirigeants de l'Europe, c'est le moment. Et gardons espoir, puisque la parole de Dieu est libre, son message peut être porté par tous et audible par tous. Ceci nous est d'ailleurs confirmé par le texte suivant, chez Marc 9, de 38 à 41. Plantons le décor. Les disciples sont avec Jésus et les discussions précédentes avaient tourné encore autour du fonctionnement hiérarchique du groupe. Je cite Marc 9, 34. Ils avaient discuté entre eux en chemin qui était le plus grand. Et donc, en l'absence de Jésus, qui doit obéir à qui? Sur ces entrefaites, Jean rapporte à Jésus que quelqu'un a procédé à un miracle en son nom et s'est mis à chasser des démons. Et que comme cet homme ne faisait pas partie du groupe des disciples, ces derniers l'en ont empêché. Pour eux, il est inconcevable qu'un homme étranger au groupe des disciples puisse agir en conformité avec les enseignements de Jésus. Pour eux, il est inconcevable qu'ainsi son action soit déjà en elle-même l'image de la parole de Jésus. En fait, la grâce de Dieu est déjà aussi dans cet étranger, parce qu'elle procède de Dieu directement. Son action et sa parole ne font qu'un. Mais ce qui est jugé ici, ça n'est pas l'action, ni même sa motivation. Ce qui est rejeté ici, c'est l'étranger au groupe. Une fois encore, comme avec Eldad et Médad dans les nombres, au nom de qui? Au nom de quoi? En quoi serait-il légitime? Enfin quoi, un étranger au groupe n'a aucun droit de se saisir des valeurs du groupe sur sa propre initiative. Il manquerait plus que ça. Et encore moins à les revendiquer et à agir en conformité avec. Les disciples raisonnent très simplement. Voilà un type qui parle au nom de Jésus, qui agit au nom de Jésus et qui n'est même pas de chez nous. Mais pour Jésus, ce qui est essentiel, c'est l'exemple donné par l'action. Si un homme agit selon ses préceptes et entreprend un miracle en son nom, il n'y a aucun risque que sa parole soit travestie. Les valeurs qui sous-tendent son action sont déjà conformes au Christ, que cet homme fasse partie de la communauté ou pas. Et la reconnaissance se fait dans l'action. Bien sûr, Christ dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Mais il dit aussi très pragmatiquement « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous ». Et Dieu reconnaît tout autant celui ou celle qui accueille sa parole que le personnage officiel qui porte cette parole. Celui qui vous abreuvera d'un verre d'eau parce que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas son salaire. Le missionnaire qui nous apporte la parole de Dieu peut très bien n'appartenir à aucune église. J'ai bien connu certains bouddhistes dont les actes sont en parfaite conformité avec nos textes. La parole de Dieu procède en toute liberté, de tous les canaux possibles, officiels ou non, reconnus ou obscurs. C'est dans cette ouverture bienveillante que l'Assemblée des chrétiens, que notre Assemblée, devient accueillante aux personnes qui agissent déjà au nom du Christ. Un groupe qui sert de plateforme à ceux qui souhaitent faire rayonner la lumière que Dieu met en chacun d'entre nous est un gage d'efficacité pour notre communauté. Il est une force d'attraction et de coopération contre les forces du mal. En tant que groupe de chrétiens, cultivons cette attitude avec ferveur. C'est le message de Dieu et surtout, c'est l'assurance de renaître chaque jour. C'est l'assurance de donner chaque jour un sens à notre vie et de donner un sens à notre action par la grâce de Dieu. En tant que femmes et hommes chrétiens, profitons de cette extraordinaire liberté de la parole de Dieu pour forger notre propre jugement. Écoutons soigneusement l'Esprit qui nous conseille. Il parle souvent à voix basse, très basse, mais il est toujours présent. La lumière divine est en nous, faisant-la rayonner. Voilà la grande bonté de Dieu à notre égard.